Bon, ce matin, tu nous présentes, Pierre-Yves, 5 entreprises que tu as qualifiées, entre guillemets, de plates, qu'on a peut-être sous-estimées sur la bourse cette année.
Oui, parce que, tu sais, évidemment, à Noël, vous avez eu votre neveu, votre gendre, votre nièce qui est arrivée, puis qui vous a dit « Mon oncle, tu connais rien, la crypto-monnaie, Tesla, Reddit, j'ai lu ça, là, GameStop, investissez là-dedans. » Et évidemment, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ces gens-là ont fait de l'argent avec de la spéculation pendant que votre conseiller, sur le bord des lignes de côté, qui lui vous conseille année après année dans des titres de qualité, de placement à long terme, ben, il se faisait pointer du doigt en disant « Hey, mon neveu de 12 ans fait plus que toi. » Et là, ce matin, Paul, évidemment, un petit retour temporaire à la normale, Bitcoin en chute, hein, Tesla qui depuis le début de l'année donne absolument rien sauf un rendement négatif. Et pendant ce temps-là, il y a des titres plates comme des vraiment plates. Je vais t'en parler de plusieurs. Le premier, la Banque Royale. La Banque Royale qui, malheureusement, t'a donné depuis le début de l'année juste 3,5% de dividendes annuels, plus en 3 mois 16% ou 18% depuis le début de l'année. N'oubliez pas, là, on n'est même pas rendu en juin encore. Home Depot, tu sais, une compagnie plate, tu sais, du 2 par 4. Non, mais tu parles d'une compagnie plate de te donner 2% de dividendes par année, plus, sur les premiers mois de l'année, seulement 19,25%. À côté, tu as la Banque nationale, c'est notre Banque nationale. Hey, ça, c'est plate, hein? 3% de dividendes annuels, plus 30% de rendement depuis le 1er janvier. Pour vrai, là, je regarde le neveu de côté, puis je me dis, maudit, je suis plate. Continuons. BCE, tu sais, Bell, là, tu sais, l'Internet, là, wash, Paul, 6% de dividendes annuels, plus 9% depuis le début de l'année. Et le fonds de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, tu sais, une affaire plate de fonds d'investissement de plein de compagnies qui, depuis le début de l'année, te donne seulement 24% de rendement, plus la conversion du US en dollars canadiens. Pour vrai, quelle compagnie plate, puis quel rendement plate, puis qu'est-ce que les conseillers n'ont pas compris? Là, évidemment, tu comprends que c'est un peu du sarcasme.
Je sais que tu te fais beaucoup d'amis dans la communauté des amateurs de Bitcoin. Non, mais c'est correct. D'en mettre une autre couche.
Il y en a qui ont fait de l'argent, puis c'est correct, Paul. Oui. Ce que je dis simplement, c'est que pendant qu'il y en a qui perdent 12% hier, ben il y en a qui ont fait 25-30% depuis le début de l'année. Alors, ce que j'aime montrer là-dedans, c'est que avoir une certaine balance, puis un certain, disons, horizon permet, dans des cycles, de remontrer qu'il y a des circonstances où c'est payant à spéculer et que tout le monde gagne. Et depuis quelques jours, je ne sais pas si vous regardez votre portefeuille, mais ceux qui ont des entreprises solides à long terme finissent par se faire payer. Alors, il y a un équilibre dans tout ça. Il n'y a pas de génie de la bourse qui se lève le matin en disant « J'ai tout compris, je fais plein d'argent à chaque fois. » Les gens m'écrivent juste quand ils font des bons coups. Là, tu vois, j'ai aucun troll de crypto-monnaie ce matin.
Non.
Aucun.
Tu vas en avoir, ce sera pas long.
Oui, je vais en avoir, ce sera pas long.
OK. Là, tu nous parles des chefs d'entreprise qui mettent de la pression.
Oui, sur le gouvernement. Parce que là, on a vu la lettre qui est sortie, puis là, tu as le Conseil canadien des affaires, puis la Chambre de commerce du Canada. Elle doit être grande, cette chambre-là, parce que c'est au Canada au complet, qui disent « Hey, nous autres, là, on veut un plan clair de déconfinement avec des étapes, puis pan-canadienne, puis clair pour tout le monde. » Mais ce que les entreprises ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ne pas accepter, c'est que pour la première fois de leur vie, leur lobby, leur influence, leur publicité, leur financement, tout ce qu'ils font d'habitude pour influencer le pouvoir est plus petit en importance que la santé publique. Et donc, ce serait un peu fou du gouvernement de faire un projet pan-canadien de toutes les provinces, peu importe ce qui arrive avec des dates, être très étapiste et finalement ne pas livrer. Parce que quand tu ne respectes pas ton échéance, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une mauvaise gestion des attentes. Et donc, ça me fait beaucoup rire, ben ça fait sourire en coin un peu de voir les entreprises qui, pour une fois, les grands dirigeants, qui sont souvent en train de menacer le gouvernement de partir, de quitter la province, d'aller chercher des financements ailleurs, puis de dire « Hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, on n'a plus de pouvoir, puis on n'a pas écrit une lettre au premier ministre. Là. La santé publique va passer avant les profits, l'optimisation des rendements. » Par contre, parlons un peu des PME. Je comprends l'exaspération des PME. Tu sais, je te donne un exemple. Un petit commerce de détail sur maçon. Ben, tu avais 3 employés. Il y en a un qui retourne aux études. Un qui devient préposé aux bénéficiaires. Un qui change de région. Donc, tu avais des propriétaires, 3 employés qui ne se retrouvent plus d'employés. Et là, doivent réengager du monde. Puis là, tu mets des annonces. Puis tout le monde au Québec est en train de mettre des annonces.
Mais les restaurateurs...
En même temps?
Tout le monde va rouvrir en même temps. Puis donc, tu as besoin de récupérer le personnel. Il y en a qui reviennent, d'autres qui veulent pas revenir. Tu sais, c'est un méchant casse-tête.
Puis l'autre affaire, c'est quand tu es en restauration, c'est un mode de vie. Hein, tu roules, t'opères, tout ça. Mais quand tu as un an pour réfléchir à ton avenir... Il y a des bonnes chances que tu y aies réfléchi solidement, puis que tu aies eu un plan B, parce que tu es rendu à 26, 27, 30 ans, puis tu te dis « Ah, je vais-tu faire ça encore 10, 15 ans? » Et il y a beaucoup d'emplois qui ne reviendront pas. Et l'autre affaire, là, tu es en concurrence du jour au lendemain avec tous tes voisins, tous tes partenaires, tous tes concurrents qui disent « Nous engageons, nous engageons, nous engageons. » Alors là, il faut qu'il y ait une espèce de surenchère du marketing de la main-d'œuvre, c'est-à-dire « J'offre mieux, j'offre des meilleures conditions, j'offre plus cher, mais on sort de pandémie. » Imagines-tu la guerre que ça peut faire de dire « Je vais donner des meilleures heures, je vais avoir une meilleure clientèle que la tienne. » C'est pas évident. C'est pas évident de revenir. Je les comprends.
Là, non, c'est sûr.
Imagine la gestion des stocks. Là. T'es une entreprise qui a des stocks à gérer en restauration ou dans l'industriel, puis des commandes. Quand est-ce que la machine va repartir à plein régime? Puis à quel moment... Tu peux repartir ça de façon définitive.
Parce que... c'est un été qui va ressembler à ce qu'on a connu l'été passé. Donc, c'est une capacité limitée. Moi, j'ai plein de restos en tête où les tables qui sont condamnées, des plexiglas qui ont été installés. Ça va être jusqu'en septembre minimalement. Là.
As-tu fait ta première réservation?
Pas encore.
Il paraît, Paul, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui sont déjà sur les réservations.
Ben, j'en connais ici autour, là.
Oui, moi, pas c'est loin. Sûr qu'il y en a une couple de restaurants qui vont faire leur chiffre d'affaires avec moi par rapport à avant. Je vais y aller souvent.
Ben, ça va commencer par la terrasse, puis après ça, il y a moins de place. Fait que, bon, ben voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. 7h23. Autoroute des Laurentides.